Les podcasts du Collège de France, philosophie.
La dernière fois, j'avais commencé à vous parler de façon un peu plus précise de la manière dont le kantisme a pu sembler être remis en question, d'abord par la découverte des géomètres, enfin plus précisément le kantisme en général, mais surtout la philosophie des mathématiques de Kant a pu donner l'impression d'être remise en question sérieusement, d'une part par la découverte des géométries non euclidiennes, puisque, bon, à première vue, l'existence d'une pluralité de géométries pouvait sembler incompatible avec la philosophie de la géométrie de Kant, mais c'est un point qui a été discuté. Il y a eu des kantiens tout à fait sérieux qui ont soutenu qu'en réalité il n'en était rien, que le kantisme était parfaitement compatible avec l'existence d'une pluralité de géométrie. Et puis il y a eu ensuite une deuxième phase au cours de laquelle le kantisme a pu sembler en difficulté, c'est la découverte de la théorie de la relativité. Alors, comme j'avais évoqué la position de Helmholtz, la position de Helmholtz consiste à dire que le kantisme, qui a certes, avec la découverte des géométries non euclidiennes, il y a un problème sérieux qui se pose pour Kant, mais l'idée de Helmholtz, c'est que le kantisme peut parfaitement être amendé et n'a aucunement besoin d'être rejeté pour apparaître comme compatible avec l'existence des géométries non euclidiennes. Donc, Helmholtz, de façon tout à fait générale, se présente comme un continuateur de Kant, et même, il se présente même comme celui qui s'est comporté de la façon la plus fidèle que l'on puisse concevoir à l'esprit, sinon à l'aide du moins à l'esprit du kantisme. Alors, comme j'étais passé un peu rapidement, je vais peut-être ajouter une ou deux précisions là-dessus. L'essentiel chez Helmholtz se trouve dans un texte de 1878 qui s'intitule Die Tatsachen in der Wahrnehmung, c'est-à-dire littéralement les faits dans la perception. Et dans ce texte, il y a d'autres textes dans lesquels il le fait également, mais dans ce texte-là, donc, il plaide de façon particulièrement circonstanciée en faveur de l'idée qu'il y a un aspect du kantisme qui est tout à fait acceptable. C'est celui en vertu duquel l'espace, notre perception de l'espace résulte d'une intuition a priori qui correspond à ce que Kant appelle une forme a priori de la sensibilité. Donc ça, c'est l'aspect de Kant que Helmholtz accepte tout à fait. En revanche, ce qu'il n'accepte pas, c'est le fait que l'intuition a priori que nous avons de l'espace est censée déterminer de façon univoque la nature de la géométrie, c'est-à-dire l'intuition a priori nous donne l'espace, mais l'idée de Helmholtz, c'est qu'en revanche, elle ne peut pas nous donner les axiomes de la géométrie, ce qui est résumé, les axiomes de la géométrie, c'est-à-dire de la seule géométrie possible, qui est censée être, dans l'interprétation qui est donnée à l'époque généralement du kantisme, qui est censée être la géométrie euclidienne. Alors, il y a une formule de Helmholtz qui résume tout à fait, qui décrit tout à fait cette situation. C'est dans l'appendice 2 du texte dont je suis en train de vous parler, les faits de la géométrie, où Helmholtz dit « l'espace peut être transcendantal sans que les axiomes le soient ». Donc, l'espace et la forme de l'espace, la nature et la forme de l'espace sont déterminés par une intuition a priori que nous avons de l'espace, conformément à ce qu'a affirmé Kant, mais en revanche, pour ce qui est, il n'en va pas de même pour les axiomes. Alors, bien sûr, il subsiste la question de savoir si le kantisme est ou non compatible avec l'existence d'une pluralité de géométrie. On a considéré souvent que l'intuition a priori de l'espace détermine en même temps la vérité, la nature et la vérité des axiomes géométriques, et que ces axiomes doivent être ceux de la géométrie euclidienne. Or, comme on vient de le voir, Helmholtz pense qu'il faut distinguer rigoureusement ces deux choses. Kant, par exemple, donne comme exemple de proposition synthétique a priori la proposition selon laquelle deux droites ne peuvent enclore un espace. Or, c'est une proposition qui peut sembler contestée et réfutée par le fait de l'existence d'une pluralité de géométrie. Par conséquent, on est à tout le moins obligé de se poser la question de savoir si les axiomes de la géométrie euclidienne sont réellement synthétiques a priori. Alors, on vient de voir quelle est la position de Helmholtz. Je vous citerai deux passages sur les faits de la perception qui éclairent ce point de façon tout à fait précise. Par exemple, Helmholtz dit ceci, « La conséquence que je tire des considérations qui viennent d'être développées est celle-ci. Si il y avait véritablement une forme d'intuition de l'espace qui nous est innée, qui est indestructible, un unfertilgbar, donc s'il y avait une forme d'intuition de l'espace, y compris les axiomes, c'est-à-dire une forme d'intuition a priori de l'espace qui inclurait la vérité d'axiomes d'une certaine sorte, en l'occurrence les axiomes de la géométrie euclidienne, alors nous ne serions justifiés à les appliquer de façon objective et scientifique qu'après que par l'observation et l'expérience, il aurait été constaté que les parties de l'espace qui sont équivalentes d'après l'intuition transcendantale qui a été présupposée, donc que si ces parties-là étaient également physiquement équivalentes. Cette condition coïncide avec le réquisite, l'exigence, donc il dit Forderung, avec le réquisite de Riemann que la mesure de la courbure de l'espace dans lequel nous vivons doit être déterminée empiriquement par la mesure. Donc le seul moyen, d'après Helmholtz, de déterminer la mesure de la courbure de l'espace qui nous environne, de l'espace dans lequel nous vivons, le seul moyen de le faire donc est empirique. Ça ne peut en aucun cas être décidé a priori. Les mesures qui ont été effectuées jusqu'à présent, donc les mesures de cette sorte qui ont été effectuées jusqu'à présent, n'ont pas fait apparaître de déviation notable par rapport à zéro de la valeur de cette mesure de la courbure. Par conséquent, la géométrie euclidienne est valide, elle peut être considérée comme correcte à l'intérieur des limites de la précision qui a pu être atteinte jusqu'à présent. Donc, si vous voulez, dans certaines limites, la géométrie euclidienne reste parfaitement valide. Mais d'autres géométries sont possibles et, encore une fois, on ne peut déterminer qu'empiriquement laquelle de ces géométries est applicable à l'espace physique. Alors, tout à la fin du texte, Helmholtz résume sa conception en disant la supposition d'une connaissance des axiomes à partir de l'intuition transcendantale, donc il revient sur l'idée que, comme il l'a dit déjà, l'espace peut être transcendantal. Alors, vous avez remarqué sûrement qu'il ne fait pas une très grosse différence entre transcendantal et a priori, comme c'est souvent le cas dans les discussions sur Kant, surtout chez les gens qui ne sont pas philosophes, mais ce n'est pas un point qui est tout à fait crucial. Ce qu'il faut comprendre est qu'il conteste encore une fois qu'il admet tout à fait que l'intuition de l'espace est a priori, mais il soutient en revanche que les axiomes ne le sont pas. Donc, la supposition d'une connaissance directe des axiomes à partir de l'intuition transcendantale est, alors premièrement, dit-il, une hypothèse non démontrée, deuxièmement, une hypothèse non nécessaire, étant donné que dans la représentation effective, dans le monde de la représentation effective que nous avons, elle ne prétend pas expliquer quoi que ce soit qui ne puisse pas également être expliqué sans son aide. Donc c'est une hypothèse non démontrée, non nécessaire. Enfin, troisièmement, c'est une hypothèse qui est tout à fait inutilisable, soulignée, tout à fait inutilisable pour l'explication de notre connaissance du monde réel, étant donné que les propositions qui sont énoncées par elle à propos des états de choses dans le monde réel, ces propositions ne peuvent dans tous les cas être appliquées qu'après que leur validité objective a été testée et constatée empiriquement. Donc une fois de plus, il considère que ces propositions-là, ces propositions dont on croit pouvoir les énoncer a priori, ne sont en réalité applicables au monde réel qu'après avoir été testées empiriquement. Et il conclut de la manière suivante, comme vous allez le voir, montre tout à fait qu'il se considère véritablement comme un continuateur de Kant. La doctrine kantienne des formes données a priori de l'intuition est une expression très heureuse et claire, hein, très heureuse et très claire de la situation. Mais ces formes doivent être vides de contenu et suffisamment libres pour suffisamment libre pour que n'importe quel contenu puisse y être représenté, n'importe quel contenu qui est susceptible d'entrer dans la forme de la perception qui est concernée. Mais les axiomes de la géométrie restreignent la forme d'intuition de l'espace d'une manière telle que n'importe quel contenu pensable ne peut plus y être accueilli si la géométrie doit être tout simplement applicable au monde réel. Laissons-les tomber, donc ces axiomes. Alors, la forme de... laissons tomber le caractère a priori des axiomes, laissons tomber les axiomes, pour autant qu'ils sont considérés comme a priori. Alors, la doctrine de la transcendentalité de la forme de l'intuition de l'espace ne comporte plus rien de choquant. Encore une fois, ce qui peut être choquant, c'est le fait de considérer les axiomes comme a priori, mais sûrement pas le fait de considérer l'espace lui-même comme l'intuition de l'espace elle-même comme a priori. Ici, Kant, Kant, dans la mesure où il s'agit de théorèmes de mathématiques, a été obligé de s'arrêter. Il n'a pas été suffisamment critique dans sa critique. Mais il veut dire qu'il avait des excuses parce qu'il s'agit cette fois de théorèmes mathématiques et cette partie du travail critique devait être effectuée par des mathématiciens. Donc, en gros, vous voyez qu'il défend l'idée d'une sorte de continuité entre la philosophie et les sciences. Il y a une partie du travail philosophique qui a été effectuée très correctement par Kant. Il se déclare tout à fait d'accord avec Kant sur ce point, et cette partie est celle qui a trait à la reconnaissance, un point sur lequel Kant a eu tout à fait raison, la reconnaissance du caractère a priori de l'espace et du fait que l'espace nous est donné sous la forme d'une intuition a priori. Le reste du travail devait être effectué par les sciences, et pour cela il fallait continuer dans deux directions. Donc il y a un aspect mathématique, c'est la part du travail qu'ont effectué les mathématiciens qui ont découvert les géométries non euclidiennes, et puis il y a évidemment une partie du travail non moins importante qui a été effectuée par les physiologistes, par ceux qui ont permis à la physiologie de la perception de réaliser les progrès que nous connaissons, entre autres Helmholtz. Donc c'est une position qui est tout à fait remarquable en ceci que, encore une fois, elle postule une continuité entre le travail philosophique et le travail scientifique, ce qui, comme on a déjà eu l'occasion de le voir, ne correspond pas à l'idée que Wiedemann se fait de la situation. Alors, je reviens maintenant à ce que j'avais commencé à vous dire à propos de la manière dont s'est posé le problème, non plus des géométries non euclidiennes, mais de la relativité, c'est-à-dire la question de savoir si, après les géométries non euclidiennes, l'apparition de la théorie de la relativité était ou non de nature à poser un problème sérieux pour le kantisme. Alors, je crois que je vous avais déjà cité ce que dit Maria Reichenbach dans la préface qu'elle a rédigée, dans l'introduction qu'elle a rédigée pour la version anglaise du livre de Reichenbach intitulé « Relativitätstheorie und Erkenntnis a priori », c'est-à-dire « Théorie de la relativité et connaissance a priori ». Alors, elle décrit de la manière qui apparaît sur l'écran l'attitude incontestablement ambivalente que Reichenbach, comme beaucoup d'autres, a eue à l'égard de Kant. L'attitude de Reichenbach à l'égard de Kant était ambivalente, elle oscillait entre l'admiration et le rejet. En fait, il n'y a pas de contradiction dans ses réactions, deux raisons majeures les expliquent. La première, qui a été mentionnée plus haut, est qu'il n'a cessé que graduellement de chercher sa nourriture dans les conceptions kantiennes. La seconde est que même après qu'il a compris pleinement les contradictions entre le système de Kant et la science moderne, elle les a soulignées dans ses écrits, il voulait toujours rendre ce qui lui est dû au philosophe dont il avait énormément appris. Donc il a conservé le sentiment d'une dette importante envers Kant. Alors, le grand mérite de Kant, selon Reichenbach, je crois que je l'avais déjà indiqué, c'est que d'après lui, Kant n'a pas emprunté le chemin qui mène de la spéculation au fait, ça c'est ce qu'ont fait des gens comme Hegel et Schelling, mais il a, ce qu'ont fait donc certains de ses successeurs, mais que lui a évité complètement, il a emprunté sagement le seul chemin possible, c'est-à-dire celui qui mène des faits à la conceptualisation. Donc, dit Reichenbach, son point de départ, n'a pas été un concept de connaissance fictif, donc inventé par un philosophe, mais le concept de connaissance qui avait été créé et imposé par la science de son époque. Alors, c'est aussi ce que pensait Helmholtz quand il comparait la façon de procéder de Kant à celle de certains de ses successeurs comme Hegel et Schelling. Je pense qu'il y a eu là une coupure particulièrement nette et désastreuse qui s'est instaurée entre la philosophie et les sciences. Mais d'après ce que Reichenbach en est venu à penser à son propos, à propos de Kant, alors que ce qu'il voulait proposer était une analyse de la raison, il n'a proposé en fait qu'une analyse de la science de son époque. Donc c'est un reproche qui a été fréquemment formulé, fréquemment exprimé contre Kant. Il voulait effectivement formuler quelque chose comme une analyse des conditions de possibilité a priori de la connaissance, et il n'aurait, selon certains de ses critiques, réussi à formuler dans le meilleur des cas qu'une analyse des conditions a priori de possibilité de la science de son époque. De nombreux scientifiques éminents du XIXe siècle, cependant, ont cru possible et ont essayé de réconcilier son système philosophique avec l'état plus avancé de la science de leur temps. Helmholtz, comme je l'avais dit la dernière fois et comme je viens à l'instant de le redire, Helmholtz a essayé d'élargir le système kantien de façon à y incorporer la conception de l'espace et de la géométrie qui résulte de la découverte des géométries non euclidiennes. Et une question que nous pouvons nous poser, nous, que Helmholtz ne pouvait pas se poser, mais que nous pouvons nous poser, nous, est la suivante. Est-il possible de tenter à nouveau une opération du même genre au XXe siècle après la découverte de la théorie de la relativité? Le moins que l'on puisse dire est que les idées de Reichenbach sur la réponse à donner à cette question ont changé de façon importante avec le temps. En 1936, alors qu'il enseignait à l'université d'Istanbul, il a quitté l'Allemagne pour des raisons que vous pouvez imaginer en 1933, et il a enseigné d'abord pendant un certain temps à l'université d'Istanbul, et après il a émigré pour les États-Unis où il enseignait, si je me souviens bien, à l'université de Los Angeles. Alors en 1936, donc, alors qu'il était à l'université d'Istanbul, il a écrit un essai résumant ses conceptions sur la question du synthétique a priori kantien, un essai dans lequel on peut lire notamment ce que vous avez sous les yeux et qui ressemble vraiment à une oraison funèbre concernant le synthétique a priori. Reichenbach dit « Le concept de l'a priori joue un rôle important dans de nombreuses discussions de philosophie des sciences. Là, l'influence de Kant persiste non seulement dans les diverses formes de néo-kantisme, mais également dans presque toutes les tendances philosophiques, y compris celles qui prétendent être opposées au kantisme. Mais, après l'époque de Kant, les problèmes philosophiques ont subi une évolution radicale. La réponse à sa question a été une élimination complète du synthétique a priori. » Donc, oui, la réponse apportée à Kant par l'évolution des sciences a été, affirme Reichenbach, une élimination complète du synthétique a priori. Cette réponse a été obtenue par des étapes qui se sont additionnées. Par la découverte des géométries non euclidiennes, donc c'est l'étape que nous venons de considérer à l'instant. Donc, première étape, la découverte des géométries non euclidiennes. Deuxième étape, la théorie logique des mathématiques. Alors, la théorie logique des mathématiques a rendu défendable l'idée que les propositions mathématiques ne sont pas synthétiques a priori, mais sont bel et bien analytiques. Donc, c'est le point de vue qui est défendu par Frege et également par Russell, le point de vue défendu de façon générale par ce qu'on appelle les logicistes. Donc ça, c'est un deuxième coup fatal qui a été porté au synthétique a priori. Troisième étape, le rejet de la base mécanique de la physique et les critiques relativistes des concepts de temps et d'espace. L'évolution de la science dans le dernier siècle peut être considérée comme une désintégration continue du synthétique a priori kantien. Donc, vous voyez, on ne saurait être plus clair. Alors, c'est dans un texte qui s'appelle donc l'empirisme logique en Allemagne, et l'état présent de ces problèmes. Mais Reichenbach n'avait pas toujours pensé ce genre de choses, que ce soit à l'égard du système kantien lui-même ou à l'égard des efforts faits par les néo-kantiens pour essayer de le mettre à l'abri de la menace représentée par certaines des découvertes scientifiques les plus récentes. En 1921, par exemple, dans un texte intitulé « Der gegenwärtige Stand der Relativitätsdiskussion », donc l'état présent de la discussion sur la relativité, dans ce texte de 1921, il rend un hommage qui pourrait sembler un peu étonnant à Cassirer. Dans les termes suivants, je cite, « C'est le grand accomplissement de Cassirer d'avoir libéré le néo-kantisme du sommeil dogmatique dans lequel ses autres adeptes cherchaient avec tant de soin à le maintenir pour le protéger de la théorie de la relativité. Donc vous voyez l'idée qui est suggérée, c'est qu'il y a effectivement une menace réelle que la théorie de la relativité fait peser sur le kantisme et qu'il faut consentir à affronter clairement. Ce n'est pas un hasard, dit Reichenbach, si c'est justement à Cassirer qu'est échu ce rôle, donc avoir libéré le néo-kantisme de son sommeil dogmatique, car celui qui a conçu depuis toujours l'évolution des sciences de la nature comme une évolution vers une détermination conceptuelle croissante, doit voir dans la théorie de la relativité la percée la plus ultime et la plus profonde dans cette direction et ne craindra pas de révéler, même dans la philosophie kantienne, ce qui est conditionné temporellement et dépassé par le processus évolutif. Donc un vrai kantien doit être prêt à en user à peu près comme Helmholtz et à faire une distinction entre ce qui, dans le kantisme, a une valeur permanente et en quelque sorte intemporelle et à ce qui... et ce qui est, en revanche, conditionné temporellement et susceptible d'être dépassé par l'évolution des connaissances scientifiques. On doit, dans la critique de la connaissance de Kant, distinguer la position de question méthodologique, la méthode transcendantale, entre guillemets, des réponses spéciales que Kant a données à des questions particulières. Il est possible de nier ces réponses particulières sans abandonner la méthode critique. Je vois l'importance de Cassirer dans le fait qu'il a suivi ce chemin à l'égard de la théorie de la relativité, et ne s'est pas, comme les autres kantiens, dérobé devant la physique nouvelle. La méthode transcendantale cherche les conditions de la connaissance. Si le système de la connaissance s'est modifié depuis Kant, alors les conditions kantiennes de la connaissance doivent être corrigées. Il ne peut pas y avoir de doute sur le fait que, de cette façon, la contradiction Kant-Einstein peut être résolue. Donc vous voyez que Reichenbach pense qu'il n'y a pas de raison d'exclure a priori, la possibilité de réconcilier le kantisme avec la théorie de la relativité. Mais en tout cas, il faut consentir à faire un certain travail que, d'après lui, pour lequel, d'après lui, Cassirer a donné le bon exemple. Un peu plus loin, Reichenbach insiste sur ce qui, dans la conception kantienne, non seulement ne s'oppose pas à Einstein, mais va au contraire explicitement dans son sens. Donc, il suggère que non seulement il n'y a pas de contradiction entre le point de vue de Kant et celui de la théorie de la relativité, mais d'une certaine manière, la théorie de la relativité réalise précisément certaines des intentions, comprenez les intentions profondes, du kantisme. Voici ce qu'il dit. Cassirer a complètement raison quand il écrit « Si donc Einstein désigne, c'est Cassirer qui parle, donc si donc Einstein désigne comme la caractéristique fondamentale de la théorie de la relativité le fait que, citation, le dernier reste d'objectualité physique est enlevé à l'espace et au temps », objectualité, c'est Gegenständigkeit, donc le fait que le dernier reste d'objectualité physique est enlevé à l'espace et au temps, alors il s'avère que la théorie ne fait en cela que, donc la relativité, hein, ne fait en cela que procurer au point de vue de l'idéalisme critique la mise en place et la réalisation les plus déterminées à l'intérieur de la science empirique elle-même. Dans ce contexte, la théorie einsteinienne est bien mieux conciliable avec la doctrine kantienne que la théorie newtonienne. Et nous devons trouver déconcertant que Kant lui-même n'ait pas senti la contradiction interne avec Newton. Autrement dit, si Kant avait pu choisir, ce qu'évidemment il n'a pas pu faire historiquement, s'il avait pu choisir, il aurait choisi la conception einsteinienne de préférence à la conception newtonienne. Cassirer peut, pour cette raison, se percevoir tout à fait comme le continuateur du criticisme kantien quand il enlève à l'intuition pure son caractère métriquement déterminé. Donc vous voyez, le caractère métriquement déterminé de l'intuition est une caractéristique qui peut être considérée comme facultative et qu'on peut lui enlever sans risquer pour autant de trahir l'esprit du kantisme. Donc, Cassirer peut pour cette raison se percevoir tout à fait comme le continuateur du criticisme kantien quand il enlève à l'intuition pure son caractère métriquement déterminé et donne même à la géométrie non euclidienne, par rapport à la géométrie euclidienne, l'avantage qui consiste dans le fait qu'elle est mieux ajustée aux choses de l'expérience. Comme on sait, la théorie de la relativité n'affirme justement que cette meilleure adéquation, une physique euclidienne, est également possible, mais l'euclidianité disparaît quand on définit la congruence de deux distances par le recouvrement avec le même étalon de mesure rigide. En d'autres termes, l'idéalité des formes de l'intuition dans le système kantien indique déjà par elle-même le chemin d'une réconciliation possible entre le kantisme et la théorie de la relativité. À la différence, de la plupart des autres Kantiens, Cassirer, selon Reichenbach, n'a pas cherché à préserver les doctrines de Kant, mais à pousser plus loin l'utilisation de sa méthode, la chose essentielle étant la méthode. Il a compris, notamment, que l'on peut rester kantien tout en admettant que les axiomes kantiens ne sont pas dictés par l'intuition pure. Riemann a commencé par chercher le type le plus général de multiplicité à trois dimensions. Dans cette catégorie, l'espace plan euclidien se révèle être un cas spécial qui résulte d'une certaine forme de métrique. Si on accepte de prendre comme espace de l'intuition pure cette structure riemannienne générale qui a certaines propriétés de continuité et d'ordre, mais laisse ouvert le choix de la métrique, donc si on accepte de faire ce choix-là, alors toutes les contradictions par rapport à la théorie de la relativité disparaissent. Il n'est peut-être pas inutile de rappeler à ce propos que Gödel était lui aussi convaincu, même si c'est pour des raisons qui ne coïncident pas nécessairement avec celle de Cassirer ou celle de Reichenbach. Gödel était, de Reichenbach, il faudrait préciser, à une certaine époque, donc Gödel était lui aussi convaincu que la théorie de la relativité donne raison à Kant, au moins sur un point décisif. Il commence un texte qui date des années 1946-1949 et qui est intitulé « Quelques observations concernant la relation entre la théorie de la relativité et la philosophie kantienne ». Il s'agit d'un texte qui constitue une préparation à l'article qu'il a publié dans le volume de Schilp consacré à Einstein. Et il commence ce texte en faisant la constatation suivante. C'est un fait remarquable auquel cependant on prête très peu d'attention dans les discussions philosophiques courantes que, au moins sur un point, la théorie de la relativité a fourni une confirmation très frappante des doctrines kantiennes. En fait, c'est pour une des thèses les plus surprenantes et les plus contraires à l'intuition de Kant que c'est le cas, à savoir pour la partie de sa doctrine concernant le temps qui dit que le temps n'est ni, alors c'est une citation de la critique de la raison pure, que le temps n'est ni quelque chose qui existe en soi, c'est-à-dire une entité séparée, en dehors des objets en lui, en dehors des objets qui sont en lui, donc il n'est pas quelque chose qui existe en soi, il n'est pas davantage une caractéristique ou un ordre inhérent aux objets, mais il n'existe que dans un sens relatif. Donc vous voyez, Gödel soutient que l'évolution des connaissances, en l'occurrence, l'émergence de la théorie de la relativité a donné sur ce point fondamentalement raison à Kant. L'entité par rapport à laquelle c'est-à-dire le temps, il existe, d'après Kant, est le sujet percevant. Donc, si vous voulez, la relativité du temps par rapport au sujet percevant qui est affirmé dans le kantisme est une chose qui, d'après Gödel, se trouve confirmée par la théorie de la relativité. L'entité par rapport à laquelle il existe, d'après Kant, le temps, donc, est le sujet percevant, ou plus précisément sa sensibilité. D'après la théorie de la relativité, bon, c'est quelque chose d'un peu différent, ce sont, dit Gödel, certaines choses plus générales et abstraites, comme des points matériels, des lignes d'univers et des systèmes de coordonnées, qui toutefois peuvent être conçus sans aucun inconvénient, comme des caractéristiques de, ou comme appartenant à, un observateur possible. Donc là, il y a, dans l'idée de Gödel, quelque chose qui allait tout à fait dans la direction du kantisme. Et le texte comporte une note initiale où Gödel explique que bien qu'il ne soit pas un adepte de la philosophie kantienne en général, il trouve de façon générale Kant trop subjectiviste, donc il explique que bien qu'il ne soit pas un adepte de la philosophie kantienne en général, il a voulu montrer il a voulu montrer qu'une similitude surprenante existe à certains égards entre la théorie de la relativité et la doctrine kantienne concernant l'espace et le temps, et que les contradictions entre elles, dans la mesure où elles se produisent, ne sont de beaucoup pas aussi fondamentales qu'on le croit généralement. Donc vous voyez que son idée est que pas plus que les géométries non euclidiennes n'ont, une fois qu'on a correctement compris la situation, ne peuvent être considérés comme susceptibles de remettre en question de façon fondamentale la vérité, ou en tout cas l'acceptabilité du kantisme, la relativité n'est en mesure de le faire. Or, une des nombreuses illustrations possibles du fait que la philosophie kantienne, après avoir semblé pendant un temps être mise en difficulté par l'apparition des géométries non euclidiennes, a pu donner à certains scientifiques et épistémologues l'impression de se trouver à nouveau, avec la découverte de la théorie de la relativité, dans une position éminemment favorable. C'est bien entendu le genre de choses qui confirme, dans une certaine mesure, ce que dit Villemin, puisque ce que Gödel suggère à sa façon est justement une manière de réinterpréter et de réécrire la doctrine kantienne en fonction d'une découverte scientifique récente, en l'occurrence la théorie de la relativité. Savoir si cette façon de réinterpréter et de réécrire la doctrine peut être acceptée par les kantiens de stricte obédience est évidemment un tout autre problème, et on peut s'attendre a priori à ce que la réponse soit non, et même un non assez catégorique. Alors j'en arrive à la dixième question que je voulais traiter, c'est-à-dire la science peut-elle au moins dans certains cas nous contraindre à un choix déterminé entre les options philosophiques qui se proposent. Une question que nous avons déjà rencontrée, sur laquelle j'aimerais revenir de façon un peu plus précise, précisément en rapport avec l'attitude de Reichenbach, hein, c'est-à-dire dans quelle mesure l'évolution des connaissances scientifiques peut-elle permettre de trancher un différent qui est de nature philosophique. Alors l'évolution de Reichenbach a évolué de façon considérable. Elle a évolué assez rapidement, de façon considérable, par rapport aux idées qu'il défendait dans le texte de 1921 que j'ai cité. Quatre ans plus tard, en 1925, il fait entendre déjà un son de cloche complètement différent. Il considère que les tentatives faites pour sauver au moins certaines parties du système kantien sont futiles. Il explique cela notamment dans un article de 1925, donc intitulé « Métaphysique und Naturwissenschaft », métaphysique et science de la nature. Alors, dans cet article, donc, il a l'air de considérer que les tentatives de sauvetage d'au moins une partie du kantisme doivent être considérées comme futiles et désespérées. Et il applique cela de façon plus générale à tout ce que l'on pourrait faire pour essayer de conserver au moins quelques éléments dans le vaste champ de ruines que constituent, d'après lui, les systèmes philosophiques du passé. Il en est arrivé à ce moment-là à l'idée que la meilleure façon de rendre hommage à Kant et de payer sa dette envers lui n'est sûrement pas de construire des connexions artificielles avec son système et de proposer des extensions et des modifications de ses idées. Il faut plutôt, remarque-t-il, dire comme Aristote avec son maître Platon, « Amicus Plato, magis amica veritas ». Platon est mon ami, mais la vérité l'est encore bien plus. En 1933, Reichenbach remarque qu'il ne servira à rien de généraliser les principes de Kant, comme Cassirer l'a fait, pour les raisons qui sont indiquées sur l'écran. Donc il a reconsidéré assez radicalement son point de vue, non pas seulement à l'égard de Kant, mais également à l'égard de Cassirer. Il dit ceci, « Si les principes de Kant n'étaient pas les principes ultimes, il resterait la possibilité que des présuppositions ultimes existent et qu'elles devront être découvertes graduellement. » Donc peut-être que les principes a priori qui rendent possible la connaissance en général, les principes auxquels est arrivé Kant ne sont pas les principes ultime et définitif. Bon, dans ce cas-là, il resterait la possibilité que des principes qui sont réellement ultimes existent et puissent être découverts. Cette idée, dit-il, a été développée avant tout par les néo-kantiens. Il met entre parenthèses Cassirer. Mais cette conception mène à des difficultés. Si nous ne pouvons pas dire de façon déterminée d'un système de principes quelconque, s'il est ou non le système ultime, donc comment savoir si le système de principes auquel on est arrivé à un moment donné est tout non ultime, l'idée d'un tel système devient un postulat vide qui ne peut pas être appliqué à la science. De plus, ce postulat ne peut être justifié de quelque façon que ce soit. On ne peut asserter d'un système synthétique quelconque de principe qu'il sera toujours compatible avec toutes les observations futures. Par conséquent, aucun système ultime de cette sorte n'existe. La relation entre la totalité des observations et un système de présuppositions a la forme compliquée suivante. Pour une totalité d'observations, il existe un système de présuppositions correspondant. Donc on peut faire le travail, si vous voulez, que critique Kant a essayé de faire, en particulier en relation avec la mécanique newtonienne. Donc pour toute totalité d'observations, il existe un système de présuppositions correspondant. Mais inversement, pour tout système donné de présupposition, donc auquel on aura pu parvenir à un moment donné, pour tout système donné de présupposition, il est possible de construire une totalité d'observations qui contredit ce système. Et Reichenbach considère qu'il y a là quelque chose comme une sorte de réduction à l'absurde hein, de la possibilité de faire le genre de travail que Kant a cherché à faire. Dans une discussion ultérieure, il s'agit de la contribution de Reichenbach au volume que Schilp a consacré en 1949 à Einstein, pour lequel Gödel a rédigé lui aussi un article, l'article auquel je faisais allusion. Donc dans ce même volume, Reichenbach défend un point de vue bien différent de celui de Gödel et nie explicitement l'idéalité de l'espace et du temps. Donc, alors que Gödel avait tendance à penser que la théorie de la relativité avait sur ce point confirmé la conception de Kant, Reichenbach, de son côté, donc, nie explicitement que l'espace et le temps doivent être considérés comme des idéalités. Il dit ceci, « La théorie de la relativité montre que l'espace et le temps ne sont ni des objets idéaux, ni des formes d'ordre nécessaires pour l'esprit humain. Ils constituent un système relationnel exprimant certaines caractéristiques des objets physiques, donc ils expriment certaines caractéristiques des objets physiques eux-mêmes, et sont, par conséquent, descriptifs du monde physique. » Dans le même essai, donc la contribution au volume de Schilp consacré à Einstein, dans le même essai, il revient sur ce qu'il avait écrit dans son article de 1921 sur la théorie de la relativité et la connaissance a priori. Donc il revient sur cet article qu'il cite comme une réfutation plus ancienne du kantisme et il la reformule de la manière suivante. Si l'hypothèse d'Einstein d'un univers fermé est correcte, une description euclidienne serait exclue pour tous les adeptes de la causalité normale. C'est ce fait que je regarde comme la réfutation la plus forte de la conception kantienne de l'espace. La relativité de la géométrie a été utilisée par les néo-kantiens comme une porte de derrière par laquelle l'apriorisme de la géométrie euclidienne a été introduit dans la théorie d'Einstein. S'il est toujours possible de sélectionner une géométrie euclidienne pour la description de l'univers, alors les kantiens insistent sur le fait que c'est cette description qui devrait être utilisée parce que la géométrie euclidienne, pour un kantien, est la seule qui puisse être visualisée. Alors ça, c'est l'idée, c'est que notre intuition a priori de l'espace, est euclidienne et qu'un espace non euclidien est un espace qui ne peut pas être intuitionné au sens kantien. Nous voyons que cette règle peut conduire à des violations du principe de causalité, et puisque la causalité pour un kantien est autant un principe a priori que la géométrie euclidienne, sa règle peut contraindre le kantien à tomber de charybde en sylla. Il n'y a pas de défense du kantisme si l'énonciation de la géométrie euclidienne est formulée sous une forme complète, incluant toutes ses implications physiques, parce que sous cette forme, l'énonciation est empiriquement vérifiable et dépend pour sa vérité de la nature du monde physique. Donc vous voyez que là, Reichenbach revient à une position du genre de celle qu'il avait défendue en 1921 et considère qu'on peut bel et bien produire à partir de la théorie de la relativité quelque chose qui mérite d'être considéré comme une réfutation du point de vue kantien. Nous pourrions évidemment pousser beaucoup plus loin la discussion sur la question difficile et technique des relations de la philosophie kantienne avec la théorie de la relativité et avec la science en général. Mais je ne vais pas essayer de le faire parce que je n'ai utilisé cette évocation de la manière dont les positions de Reichenbach sur ce genre de problème ont changé à plusieurs reprises avec les années. Je ne l'ai évoqué que pour illustrer la difficulté, pour ne pas dire l'impossibilité de décider si oui ou non il peut y avoir, en raison des progrès réalisés dans les sciences, un moment à partir duquel il devient futile d'essayer d'amender ou de réécrire un système philosophique plutôt que de l'abandonner purement et simplement. Reichenbach fait partie des philosophes qui croient à la possibilité d'une philosophie qui mériterait d'être appelée scientifique. Il est même l'auteur d'un livre intitulé « L'avènement de la philosophie scientifique ». Si la philosophie est capable, comme elle devrait l'être selon lui, de ressembler à une science authentique, on doit s'attendre à ce que les hypothèses et les théories qu'elle formule soient soumises, comme celles des autres sciences, à la pression des faits, d'une part, et à une confrontation avec des hypothèses et des théories rivales, d'autre part, qui, on peut espérer qu'elle est susceptible de conduire, au moins dans certains cas, à une décision réelle. Cela signifie, comme on l'a vu, qu'une option philosophique peut finir par être réfutée. Et cela revient à postuler entre les sciences et la philosophie une continuité forte. Là où Villemin n'accepte pour sa part que l'idée beaucoup plus modérée, beaucoup plus modeste, l'idée d'échange réciproque qui joue un rôle important et même essentiel. Une conséquence importante qui résulte de la position adopté par Reichenbach, et qu'il serait peut-être sage de renoncer à s'attaquer directement aux problèmes philosophiques les plus généraux. On ne peut pas savoir, en effet, dans quelle mesure la solution de ceux-ci pourrait dépendre de la résolution préalable de problèmes spéciaux, ni dans quelle mesure il faut peut-être attendre d'avoir réalisé des progrès suffisants dans les sciences pour pouvoir s'attaquer à eux, aux problèmes philosophiques, avec quelques chances de succès. Donc le problème qu'ils rencontrent, enfin que rencontrent fatalement tous les gens qui défendent le genre de position qu'ils adoptent, est le suivant. Quel type de progrès faudrait-il avoir préalablement réalisé dans les sciences pour pouvoir espérer résoudre les problèmes philosophiques? Dans un passage du texte de 1921 sur l'état de la discussion concernant la théorie de la relativité, Reichenbach contraste sur ce point l'attitude des fictionalistes, autrement dit des gens qui sont des disciples de Weihinger et des adeptes de la philosophie du comme-si, donc il compare leur attitude avec celle de Schlick dans le travail qu'il a effectué sur la théorie de la relativité et qui, aux yeux de Reichenbach, constitue une des meilleures illustrations possibles de la façon dont la philosophie et la physique peuvent coopérer de façon féconde. Et ce que vous avez sous les yeux donc, est un hommage tout à fait... déclaré à Schlick comme philosophe des sciences. D'après lui, Schlick est un des rares philosophes contemporains. Schlick était connu à l'époque principalement, précisément, pour le travail qu'il avait effectué sur la théorie de la relativité, et il lui rend hommage sur ce point, dans la mesure où il pense que c'est une des meilleures illustrations qu'on puisse concevoir du travail de coopération qui est possible et nécessaire entre la philosophie et la physique. Ils, dit-il, c'est-à-dire les fictionnalistes, ont remarqué que dans bien des sciences, par exemple dans la théorie du droit, la fiction joue un grand rôle et croit à présent que la théorie de la relativité devrait être également une fiction. Chez Schlick, on ne trouve nulle part trace d'un tel parti pris. Effectivement, Schlick a combattu catégoriquement l'interprétation fictionnaliste et s'est opposé en particulier vigoureusement à l'idée que les lois de la nature pourraient avoir un statut qui ressemble à celui de fiction, de nature quelconque. Partout, dit Reichenbach, on remarque la même sûreté de la compréhension physique et la disposition à apprendre quelque chose de la science exacte pour l'analyse philosophique. Là réside la raison pour laquelle les travaux de Schlick connaissent une diffusion de plus en plus large dans les cercles de physiciens. Donc, vous voyez, Schlick a réussi à produire ce qu'on pourrait appeler une épistémologie pour physiciens. Car le physicien se sent libéré quand il trouve dans la méthode philosophique quelque chose de son propre mode de pensée objectif, en allemand « Sachlich ». J'ai souvent entendu des physiciens exprimer leur étonnement qu'il n'y ait pas en philosophie de trésor de vérité universellement reconnu. Chaque orientation philosophique veut toujours recommencer depuis le début et combat les résultats de ses prédécesseurs. Il y a une vérité profonde dans cette remarque, naïve. Le point de vue, entre guillemets, a sa place à la fin de la philosophie et non au commencement. Et fin et commencement sont soulignés, oui, c'est tout à fait caractéristique. Reichenbach a un reproche aux philosophes à cette époque-là, donc il reproche de vouloir toujours commencer par l'adoption d'un point de vue, donc on se trouve immédiatement confronté à une pluralité de points de vue en compétition, et entre lesquels il est impossible de décider parce que la décision est tout à fait prématurée. Et du reste, les points de vue eux-mêmes sont prématurés. Si on accepte la façon de voir de Reichenbach, il y a une multitude de questions qu'il faudrait avoir préalablement décidé pour pouvoir se permettre d'adopter un point de vue philosophique. Et, ajoute-t-il, il y a encore suffisamment de problèmes particuliers à résoudre avant que l'on puisse simplement songer à trouver des réponses terminales aux questions ultimes. Donc on est réellement confronté à la situation que je décrivais, hein, c'est-à-dire de quel genre de questions et combien de questions de la sorte, combien de questions de cette sorte faut-il préalablement avoir décidé pour pouvoir espérer parvenir à une solution pour un problème philosophique d'une espèce, comme dit Reichenbach, terminale, pour pouvoir espérer obtenir une réponse quelconque à des questions qui appartiennent à la catégorie des questions ultimes. Donc là, la philosophie a, d'après Reichenbach, une tendance désastreuse à prétendre commencer par ce par quoi on peut seulement, dans le meilleur des cas, espérer finir. J'ai déjà eu l'occasion de citer, lors de la journée que nous avons consacrée à la célébration du centenaire de la mort de Boltzmann, j'ai déjà eu l'occasion de citer un passage dans lequel il expose une conception qui ressemble assez à... J'espère que c'est à peu près lisible, c'était un peu petit. Bon, mais je vais vous le lire. Donc c'est un assez long passage qui est également tout à fait typique, hein, de la façon de penser de quelqu'un, d'un scientifique qui estime que probablement les questions importantes, les questions essentielles, comme on les appelle, vers lesquelles les philosophes se précipitent toujours immanquablement en commençant, sont des questions sans espoir, hein, que ce sont des questions par lesquelles il faudrait finir alors qu'on est, quand on est philosophe, irrésistiblement enclin à commencer par elles. Boltzmann dit « Nulle part, moins que dans les sciences de la nature, ne se vérifie la proposition selon laquelle le chemin en ligne droite est le plus court. Si un général songe à conquérir une ville ennemie, il ne cherchera pas sur la carte la route la plus directe qui y mène. Il sera plutôt contraint de faire les détours les plus variés, toute bourgade, même si elle est tout à fait à l'écart de la route, pourvu qu'il puisse en venir à bout, sera pour lui un appui important. Les localités imprenables, il les encerclera. C'est précisément de cette façon que le chercheur dans les sciences de la nature se demande non pas quelles questions sont les plus importantes, mais quelles sont celles d'entre elles qui sont pour le moment résolubles ou même seulement à propos desquelles un petit progrès réel peut être obtenu. » Et vous voyez, là, il y a évidemment une antithèse dans l'esprit de Boltzmann, une différence majeure avec la façon de procéder des philosophes. Les scientifiques, d'après lui, ont tendance à privilégier les questions sous lesquelles ils peuvent espérer raisonnablement faire des progrès et par conséquent à se détourner, le cas échéant, des questions, se détourner pour un temps des questions qui pourraient sembler à première vue les plus importantes. Les philosophes font exactement le contraire. Ils se précipitent automatiquement vers des questions qu'ils ont tendance à considérer comme intrinsèquement les plus importantes, comme ce qu'on appelle les grandes questions, ou les questions essentielles, et à ne jamais considérer, à ne jamais adopter un point de vue qui pourrait être au contraire beaucoup plus profitable et qui consisterait à se demander quelles sont les questions philosophiques sur lesquelles nous pouvons espérer réaliser des progrès véritables. Et Boltzmann continue en disant « Tant que les alchimistes cherchaient seulement la pierre philosophale, aspiraient à la découverte de l'art de faire de l'or, tous leurs essais étaient infructueux. Seuls la restriction à des questions apparemment de moindre valeur a créé la chimie. C'est ainsi que la science de la nature perd totalement de vue en apparence les grandes questions universelles. Donc la science s'éloigne à première vue de ces questions-là, mais le succès est d'autant plus grandiose quand, à force de tâtonnements pénibles dans la jungle des questions spéciales, une petite trouée s'ouvre qui rend possible une vue sur le tout qu'on n'avait pas pressentie jusque-là. La rigole de descente de Galilée, la chaînette de Stévin sont devenus des points d'appui puissants à partir desquels la mécanique pénètre non pas seulement dans les relations externes des corps, mais également dans l'essence de la matière et de la force. Les faits remarquables que les chimistes trouvent jour après jour sont exactement autant de preuves nouvelles de l'atomisme. Mais, encore une fois, ça aurait été une entreprise désespérée que d'essayer de démontrer directement, par exemple, sur la base d'une argumentation philosophique, la vérité de l'atomisme. C'est ce que veut dire Boltzmann. On arrive progressivement à des confirmations qui se sont fait attendre longtemps, hein, mais qui sont tout à fait probantes. Les faits remarquables que les chimistes trouvent jour après jour sont exactement autant de preuves nouvelles de l'atomisme. Les expériences de Joule ont tranché définitivement les anciennes controverses sur l'essence du travail, de l'impulsion et de la force vive. La grande question, d'où sommes-nous venus, où irons-nous, a été discutée depuis des millénaires, déjà par des plus grands génies, tournée dans un sens et dans l'autre de la façon la plus astucieuse qui soit. Je ne sais pas si c'est avec un succès quelconque, mais c'est en tout cas sans aucun progrès essentiel, indéniable. Un tel progrès est venu seulement au cours de notre siècle, un fait accompli par des études au plus haut point soigneuses et des expériences comparatives, alors sur de petites questions, c'est-à-dire sur la sélection des pigeons et d'autres animaux domestiques, sur la coloration d'animaux volants et nageants, par des recherches sur la similitude frappante d'animaux inoffensifs avec des animaux venimeux, par des comparaisons pénibles des formes des fleurs avec les formes des insectes qui les fécondent. Ce ne sont assurément que des domaines de recherche d'une importance apparemment subordonnée, mais c'est en s'appuyant sur eux que des succès réels ont pu être visés, et ce sont précisément eux qui sont devenus, ces succès, donc qui sont devenus la base d'opérations solides pour une campagne dans le domaine de la métaphysique qui a connu un succès sans exemple dans l'histoire de la science. Fin de citation. J'ai cité cet extrait un peu long parce qu'il illustre remarquable dans le style également remarquable de Boltzmann. Donc, une façon de considérer les choses qui est évidemment tout à fait inhabituelle pour un philosophe, hein, qui consiste à dire peut-être qu'avant de pouvoir espérer faire des progrès en direction de la solution des grandes questions universelles, il faut accepter de s'attaquer d'abord à une multitude de questions spéciales, avec la probabilité que les progrès viendront d'endroits auxquels on n'aurait pas pensé à première vue. Alors si on adopte le genre de conception qui est suggéré dans ce passage par Boltzmann, on doit admettre qu'une seule et même méthode, celle de la science, ou en tout cas une méthode qui reste suffisamment proche d'elle, est susceptible de conduire à la fin, mais probablement par des chemins tout à fait indirects, et dont il est impossible de se faire dès à présent une idée exacte, à la résolution aussi bien des problèmes philosophiques que des problèmes scientifiques, ce qui est suggéré implicitement, c'est que les deux sortes de problèmes seront résolus en fin de compte de la même manière. Alors c'est une façon de voir qui est bien entendu tout à fait inacceptable pour ceux qui pensent qu'il y a une différence de nature entre les sciences et la philosophie, et entre un problème scientifique et un problème philosophique. Qui pense également qu'il n'y a pas de place réelle en philosophie pour une notion de progrès, et que les questions philosophiques ne peuvent pas vraiment être résolues, en tout cas sûrement pas, au sens auquel les questions scientifiques peuvent l'être et le seront probablement au moins à la fin. Comme vous pouvez le remarquer, nous sommes confrontés là à une question qui n'a rien perdu de son actualité. Cela a-t-il un sens de supposer que des progrès réalisés dans les sciences sont susceptibles de nous rapprocher de la solution d'un problème, ou comme on dit quelquefois, d'une énigme philosophique, et faut-il considérer que cela constitue même le seul moyen dont nous pouvons espérer nous en rapprocher? Par exemple, si nous sommes préoccupés par les problèmes philosophiques qui ont trait aux relations entre l'âme et le corps, à la nature de la pensée, au fondement de l'éthique, etc., devons-nous compter plutôt sur le progrès des neurosciences, sur l'analyse philosophique traditionnelle, ou peut-être sur les deux en même temps, pour pouvoir espérer réaliser quelques progrès, à supposer bien entendu qu'un progrès réel soit possible dans le traitement de questions de cette sorte. Nous avons rencontré jusqu'à présent au moins trois attitudes complètement différentes sur la question de la résolubilité de principe des questions philosophiques. Les philosophes comme Villemin pensent que les questions philosophiques ne sont pas résolubles, tout au moins si la résolubilité signifie la possibilité de parvenir un jour à une solution unique et déterminée. D'autres, en particulier les adeptes de la philosophie scientifique, estiment que les problèmes philosophiques peuvent bel et bien être résolus, mais ne peuvent l'être que progressivement par des méthodes qui ne sont pas fondamentalement différentes de celles qui sont utilisées dans les sciences. Et il y a enfin des philosophes comme Wittgenstein qui soutiennent que les problèmes philosophiques peuvent être résolus au moment où ils se posent, par la personne qui se les pose, mais seulement par des méthodes complètement différentes de celles de la science. Une chose qui, du point de vue historique, doit être soulignée avec une insistance particulière, est le fait que les possibilités de la nouvelle logique ont contribué pour beaucoup à encourager chez un bon nombre de philosophes l'idée que leur discipline allait pouvoir enfin être rendue scientifique. D'une certaine façon, c'est la révolution logique qui a contribué pour une part importante dans le milieu de la philosophie analytique, en tout cas, elle a contribué donc fortement à la critique et au dépassement de ce que Gabriel Acroco appelle la position concordataire, une position qui reposait sur l'idée que la philosophie et la science doivent s'occuper, par des méthodes qui leur sont propres, chacune de ces affaires personnelles, si l'on peut dire, en se mêlant le moins possible de celles de l'autre. Donc, dans le milieu de la philosophie analytique, tout au moins, la révolution logique a contribué de façon extrêmement importante à donner l'impression qu'on allait pouvoir dépasser une fois pour toutes ce que Gabriel Acroco appelle la position concordataire, donc qui consiste à renvoyer la science d'un côté et la philosophie de l'autre, chacune, à leurs propres affaires. En fait, dans les faits, donc, l'avènement de la logique moderne a été perçu par les philosophes qui étaient conscients de son occurrence, c'est-à-dire du fait qu'on avait changé de logique. Donc cet avènement de la logique moderne a été perçu donc, par une certaine catégorie de philosophes comme faisant apparaître des possibilités de coopération complètement nouvelles entre la philosophie et les sciences, voire même comme permettant d'espérer d'espérer quelque chose, non pas seulement comme de nouvelles formes de coopération, mais également comme faisant apparaître une possibilité de transformer concrètement la philosophie en une science. On se rend compte tout à fait clairement de cela si on regarde, par exemple, la manière dont un des défenseurs les plus éminents de l'idée de la philosophie scientifique, Bertrand Russell, s'exprime en 1914, dans un livre intitulé précisément « Notre connaissance du monde extérieur comme un domaine d'application pour la méthode scientifique en philosophie ». Alors, dans ce livre de 1914, Russell dit ceci « Les leçons qui suivent sont une tentative de montrer, à l'aide d'exemples, la nature, la capacité et les limitations de la méthode logique analytique en philosophie. » Donc il va se livrer à une célébration des avantages de la méthode qu'il appelle logique analytique en philosophie. Cette méthode, dont le premier exemple complet peut être trouvé dans les écrits de Frege, s'est imposée de plus en plus à moi dans le cours de la recherche actuelle comme quelque chose de parfaitement déterminé, capable de s'incarner dans des maximes et adéquat dans toutes les branches de la philosophie pour produire toute la connaissance scientifique, quelle qu'elle puisse être, qu'il est possible d'obtenir. Et vous remarquerez qu'il affirme tout à fait clairement que cette méthode doit être adéquate pour produire des résultats importants dans toutes les branches de la philosophie, pas seulement, par exemple, de la philosophie des sciences, ni même de la philosophie théorique en général. La plupart des méthodes qui ont été pratiquées jusqu'à présent ont fait profession de conduire à des résultats plus ambitieux que l'un quelconque de ceux que l'analyse logique peut prétendre atteindre, mais malheureusement, ces résultats ont toujours été de ceux qu'un bon nombre de philosophes compétents ont considérés comme inadmissibles. Considérés uniquement comme des hypothèses et comme des aides à l'imagination, les grands systèmes du passé servent un but très utile et méritent abondamment d'être étudiés. Mais quelque chose de différent est requis si la philosophie doit devenir une science et viser à des résultats indépendants des goûts et du tempérament des philosophes qui les défendent. Dans ce qui suit, j'ai essayé de montrer, aussi imparfaite que puisse être la façon dont je l'ai fait, la manière dont je crois que cette chose désirée peut être trouvée. Donc le problème, c'est bel et bien comment peut-on espérer réussir à transformer la philosophie en une science. Russell pense que si les systèmes philosophiques d'autrefois peuvent encore être appréciés et enseignés, c'est essentiellement comme construction spéculative et comme ce qu'il appelle des aides à l'imagination, mais non comme des contributions à la connaissance proprement dite. Ce dont il s'agit à présent est de faire accéder enfin la philosophie au stade de la connaissance objective. La connaissance objective susceptible de s'imposer à tous les philosophes, indépendamment de l'intervention de facteurs subjectifs quelconques. Or, estime-t-il, c'est une chose qui est devenue possible essentiellement grâce à la logique. L'importance de la logique provient, explique-t-il, du fait que tout problème philosophique est en fin de compte un problème qui peut être résolu par la logique. Il dit textuellement, tout problème philosophique, quand il est soumis à l'analyse et à la purification nécessaire, se révèle ou bien ne pas être réellement philosophique du tout, c'est-à-dire il peut apparaître comme un problème qui relève en fin de compte de la science empirique, ou bien il peut apparaître comme, bien il apparaîtra comme étant d'Irwarsol au sens auquel nous utilisons le mot logique. Donc tout problème réputé philosophique, ou bien n'est pas un problème philosophique, ou bien quand il est analysé correctement, apparaît comme étant un problème de nature logique. Russell insiste sur le fait qu'il n'y a réellement aucune commune mesure entre les possibilités et les ressources de la nouvelle logique et celle de l'ancienne. Alors que l'ancienne logique pouvait donner l'impression de limiter et d'entraver l'imagination abstraite, la nouvelle, dit-il, l'a étendue, donc elle a étendu l'imagination abstraite et l'a enrichie dans des proportions complètement inespérées. Elle a suggéré une multitude d'hypothèses dont on n'avait aucune idée jusqu'à présent, qui peuvent être ajoutées à notre stock et se révèlent souvent indispensables pour une analyse correcte des faits. On peut conclure par conséquent de la façon suivante. L'ancienne logique mettait la pensée au fer. Donc les réticences des philosophes à l'égard de la logique étaient justifiées, peuvent apparaître comme justifiées pour autant qu'il s'agit de l'ancienne logique. Donc l'ancienne logique mettait la pensée au fer, alors que la nouvelle lui donne des ailes. Et là, à mon avis, introduit la même espèce de progrès en philosophie que Galilée en physique. Donc vous voyez que là, il ne va pas de main morte. Il considère que l'avènement de la nouvelle logique a permis à la philosophie de réaliser des progrès spectaculaires. Elle a, à mon avis, introduit la même espèce de progrès en philosophie que Galilée en physique, rendant possible au moins de voir quelles sortes de problèmes peuvent être susceptibles de recevoir une solution et quelles sortes doivent être abandonnées comme se situant au-delà des facultés humaines. Donc, grâce à la logique, si vous voulez, on perçoit mieux la différence qui doit être faite, c'est un point essentiel, entre des problèmes pour lesquels on peut espérer trouver une solution et des problèmes pour lesquels il faut renoncer à toute espérance de ce genre. Et là où une solution apparaît possible, la nouvelle logique fournit une méthode qui nous permet d'obtenir des résultats qui n'incarnent pas seulement des idiosyncrasies personnelles, mais doivent commander l'assentiment de tous ceux qui sont compétents pour se former une opinion. Donc vous voyez, une fois de plus, il s'agit de dépasser le stade considéré comme désastreux, comme désagréable et même désastreux, dans lequel le choix des options, et des le choix entre les options et les conceptions philosophiques qui s'affrontent peut et doit être considéré comme étant essentiellement le résultat de ce que Russell appelle des idiosyncrasies personnelles. Donc, de son point de vue, grâce à la nouvelle logique, un type de philosophie réellement nouveau est devenu possible et il le décrit de la façon que vous avez sous les yeux, la philosophie qui doit être authentiquement inspirée par l'esprit scientifique a à s'occuper de sujets quelque peu arides et abstraits et ne doit pas espérer trouver une réponse aux problèmes pratiques de la vie. Donc vous voyez que le progrès réalisé se paie d'un renoncement important et que Russell admet tout à fait clairement, hein, c'est-à-dire la philosophie qui sera dorénavant inspirée authentiquement par l'esprit scientifique ne doit pas, dit-il, espérer trouver une réponse aux problèmes pratiques de la vie. Ce ne sera pas son objet. À ceux qui désirent comprendre une bonne part de ce qui, dans le passé, a été le plus difficile et le plus obscur dans la constitution de l'univers, elle a à offrir des gratifications importantes. Donc ceux-là seront satisfaits. Ceux qui ont envie de comprendre de quelle façon et fait l'univers, ceux-là recevront des gratifications importantes, des triomphes, dit-il, aussi remarquables que ceux de Newton et de Darwin, et aussi importants à long terme pour le façonnement de nos habitudes mentales. Et elle apporte avec elle, comme une méthode de recherche nouvelle et puissante, le fait toujours, un sentiment de puissance et un espoir de progrès plus sûr et mieux fondé qu'aucun de ceux qui reposent sur des généralisations hâtives et fallacieuses concernant la nature de l'univers dans son ensemble. Bien des espérances qui ont inspiré les philosophes dans le passé sont des espérances que la philosophie ne peut pas prétendre réaliser. Donc ça, c'est la part de renoncement que j'évoquais à l'instant. Bien des espérances qui ont inspiré les philosophes dans le passé sont des espérances que la philosophie ne peut pas prétendre réaliser, mais d'autres espérances, plus purement intellectuelles, elle peut les réaliser plus pleinement que les époques antérieures ne l'auraient considéré comme possible pour des esprits humains. Fin de citation. Comme on peut le constater au premier coup d'œil, et comme cela se passe toujours en pareil cas, la philosophie est invitée à revoir à la baisse, et même, pourrait-on dire, nettement à la baisse, certaines de ses ambitions traditionnelles. Il y a des questions que, même si elles ont à première vue l'air d'être à la fois les plus importantes et les plus philosophiques qui soient, donc il y a des questions que, de cette sorte que la philosophie ne peut espérer réussir à résoudre et auxquelles elle doit renoncer à s'attaquer. Il est possible, par exemple, que sur ce que Russell appelle les problèmes pratiques de la vie, et également sur les grandes questions métaphysiques, comme on les nomme, on ne puisse pas espérer sérieusement réussir à dépasser le stade de l'opinion pour accéder à celui de la science, en l'occurrence de la philosophie scientifique. Mais c'est un sacrifice qui sera, estime Russell, largement compensé par les gains réalisés ailleurs. Cette conception de la philosophie n'a, cela va sans dire, aucune chance de trouver grâce aux yeux de ceux qui pensent que la valeur de la philosophie se mesure essentiellement à la contribution qu'elle est en mesure d'apporter à la résolution des problèmes pratiques de la vie, une conception qui apparemment est redevenue depuis quelque temps encore plus dominante qu'auparavant et a même tendance à occuper plus que jamais l'essentiel du terrain disponible. Bon, je n'ai pas besoin de m'étendre sur sur le genre d'appréciation que Russell pourrait formuler sur la situation actuelle de la philosophie. J'ajouterai encore que Reichenbach, bien qu'il ne soit pas vraiment un philosophe de la logique et des mathématiques, donc c'est plutôt un philosophe de la physique, Reichenbach a accordé lui aussi une importance tout à fait déterminante à la logique. Tout comme les membres du cercle de Vienne, il était convaincu que, sous sa forme moderne, la logique a permis de conférer à la philosophie une orientation et un style complètement new. Et un style complètement nouveau. Au début de la préface du livre que j'évoquais, il y a un instant, c'est-à-dire l'avènement de la philosophie scientifique, qui est un livre dont l'édition originale est parue en anglais en 1951. Alors au début de la préface de ce livre, il écrit ceci, « C'est une croyance largement répandue que philosophie et spéculation sont inséparables. On est d'avis que le philosophe n'a pas à sa disposition de méthode qui conduise à la vérité objective, que par conséquent la vérité de fait d'observation, de même que la vérité de cheminement de pensée purement logique, ne tombe pas dans son domaine et qu'il est obligé pour cette raison d'utiliser un langage invérifiable. Bref, que la philosophie n'a rien à voir avec la science. » Le livre que voici, c'est-à-dire l'avènement de la philosophie scientifique, a été écrit dans l'intention de justifier une conception opposée. Il représente le point de vue selon lequel la spéculation philosophique renvoie à une phase transitoire qui n'apparaît que quand les questions philosophiques sont posées à une époque qui ne dispose pas encore des moyens logiques pour y répondre. Donc, vous voyez, Reichenbach, un peu comme Russell du reste, pense que le moment est venu de rompre le lien indissoluble qui est supposé exister entre philosophie et spéculation. On a dorénavant la possibilité de pratiquer la philosophie d'une autre manière. Alors, c'est-à-dire le livre, affirme qu'il y a, et il y a toujours eu une attitude scientifique en philosophie, et il veut montrer comment de cette attitude est née une philosophie scientifique qui a trouvé dans la science moderne l'instrument permettant de résoudre des problèmes qui, dans les époques passées, étaient devenus la proie de la conjecture aveugle. Le livre veut apporter la preuve que la philosophie a échappé à la spéculation et est devenue une science. Bien, ben je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et vous laisser le soin de méditer sur cette dernière affirmation. Le livre veut apporter la preuve que la philosophie a échappé à la spéculation et est devenue une science. Je vous remercie de votre attention.